Celui qui veut voyager heureux doit voyager léger. Gardez bien ces mots de Saint-Exupéry en tête, car si la France qui travaille vit au même rythme que les couloirs et la cantine de Radio France, alors je le sais, vous êtes déjà très très nombreux à remplir trop vos valises. Peut-être le faites-vous en ce moment même en nous écoutant. Restez donc léger, nous et les autres âmes charitables juétistes. Un cran en dessous des Haussiens, c'est sûr. On s'occupe de tout. Bienvenue dans le Mac de l'été, un magazine culture où l'on parle, par exemple, de cinéma, comme aujourd'hui avec Zita Enroux. Bonsoir Zita Enroux.
Bonsoir.
Très heureuse de vous recevoir. Ce soir, on va parler de votre film qui sort mercredi prochain aux jours qui viennent. Une histoire de violence conjugale, mais avec un prisme rare, celui de l'après, de la reconstruction, de la permanence, du traumatisme. Un film très juste et jamais noir. Et j'ai envie qu'on parle de silence, Zita Enroux, parce que dans cette histoire de violence, il y a une enfant, une enfant qui voit, une enfant qui subit et à qui on dit quand même pas grand-chose. Alors, j'ai envie qu'on parle de silence, de nos silences. C'est le titre d'un très bel essai sorti cette année de Laurence Joseph, autrice de Nos Silences, qui va nous rejoindre. Mais en attendant, on fait un peu de bruit. Je vous emmène au cinéma dans le panorama de la culture. Ce sera à 18h30. Allez, on sort les glaçons, on met les petits orteils à l'aise, on les sort de leur carcan, on prend un radis, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Marie Misset.
Elle est gentille, elle me fait un assentiment de la tête.
Parce que je me disais, on prend un radis. En effet, je mange beaucoup de radis.
Et oui, moi aussi, j'ai très envie de radis. C'est pour ça que j'en parle quasiment tous les jours.
Du coup, c'est pour ça que j'ai de la tête en me disant, ah oui, c'est vrai, c'est bien.
Ça fait plaisir avec un peu de beurre. C'est en gros, vous touchez à tout. Grande série populaire avec Plan Cœur, le film d'action avec Ad Vitam, le drame avec Fatima, pour lequel vous avez reçu le César du meilleur espoir il y a déjà 10 ans, ou encore ce drame intime, très humain, lumineux, de Nathalie Najem, au jour qui viennent. Mais est-ce que vous avez remarqué, Zita Enroux, que vous jouez souvent dans des sortes de duos féminins ?
Oui, alors oui, je me suis fait cette réflexion l'autre jour, parce que, mais même hier soir, on avait l'avant-première et j'avais invité ma partenaire Clémence Boinard avec qui je jouais dans La fête est finie.
Et c'est la quatrième fois que vous avez une sorte de face-à-face.
Ouais,
alors là, vous n'êtes pas
vrai.
Que deux hein, de ce film,
c'est
mais
vrai.
Avec une femme dans un film.
Oui, je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Et en plus, je trouve qu'avec ce film, on aborde vraiment la question de lever de bouclier et de solidarité entre femmes. Et c'est un sujet auquel je suis très sensible. Et c'est vrai que, je sais pas, il doit y avoir quelque chose...
En vous.
Ouais, voilà. Déjà, j'ai pas de sœur, alors peut-être que justement, je m'invente des sœurs au cinéma, et c'est un grand regret pour moi de pas avoir de sœur. Et j'aime bien, quoi. C'est une autre dynamique.
Avant de rentrer dans le vif du sujet des violences conjugales dont le film parle un peu de douceur, j'ai envie de savoir quel genre de juilletiste ou daoussienne vous êtes, de quel côté du chassé-croisé vous êtes. Est-ce que l'été, pour commencer, Zita Enroux, c'est une saison que vous appréciez ou plutôt que vous fuyez ?
Ah non, moi j'adore l'été. En fait, je suis originaire de Marseille, donc j'ai toujours baigné dans la chaleur. J'aime quand il fait très très chaud, quand c'est quasiment irrespirable. Et là, justement, j'ai eu beaucoup de plaisir pendant la canicule
c'est
à Paris. Je pense que je suis une des rares. J'étais un petit peu fatiguée.
Faut faire des formations aux gens.
Non, mais je veux dire, en fait, j'adore cette atmosphère. Là, je vais dans le sud, je retourne chez moi à Marseille. Je recherche cette chaleur.
Cette pesanteur.
Ouais. Je trouve que j'ai
l'impression... Pouvoir à peine respirer.
En fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que je me réveille et que bizarrement, mon cerveau commence à fonctionner. Donc, bon, je suis un peu dans la panade à Paris parce que
ça
le reste de l'année,
pas très
voilà,
souvent.
Ça ne fonctionne
pas. À quoi ressemblaient vos étés quand vous étiez enfant dans le Panier, justement, ou ailleurs, hein, d'ailleurs?
Ouais. Alors, c'est vrai que je suis originaire du Panier. Je restais pas trop à Marseille l'été. J'avais cette chance de pouvoir partir. Et j'allais dans les Alpes, vers Briançon, beaucoup. Et beaucoup chez mes grands-parents à Aix-en-Provence. Et c'était des étés, j'en garde des souvenirs très précieux parce que c'était des étés où j'étais entourée de mes cousines. On avait vraiment ce truc de grande famille comme ça, tous ensemble, autour de la piscine, avec vraiment des espèces de marqueurs comme ça, de choses qu'on retrouvait chaque année. Et c'était, pour moi, c'était des moments de retrouvailles et de liberté aussi, ouais.
C'est quoi votre heure préférée de la journée l'été, votre moment favori ?
J'adore tôt le matin. Tôt le matin, je trouve ça absolument... je trouve ça délicieux parce que, d'ailleurs, il fait pas trop chaud et j'ai l'impression qu'il y a un truc de promesse comme ça le matin. Je suis assez matinale et c'est vrai que c'est le moment... Même là, à Paris, l'autre jour, je me suis réveillée très tôt pour venir à la matinale de France Inter.
Un dimanche.
Exactement. Et j'en ai profité après pour me promener dans Paris très tôt le matin, comme ça. Et c'était assez.
Alors qu'il n'y a encore personne.
Ah ouais, c'était génial.
On veut en savoir toujours plus. On va vous replonger maintenant dans l'été de vos 20 ans à l'aide d'un outil qu'on appelle Louis. On est donc en 2009. Cet été, le président s'appelait Nicolas Sarkozy. Il a fait un malaise vagal pendant son jogging. Mais on entendait surtout tout ça.
Tu parles arabe ?
Ouais, je parle arabe.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches.
Pourquoi ?
Ne regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi ?
Parce que tu veux le tuer.
Usain Bolt est entré dans l'histoire. Le précédent record du monde du 200 mètres datait des Jeux d'Atlanta en 1996. Usain Bolt a remporté le titre olympique aujourd'hui sur 200 mètres en 19 secondes et 30 centièmes, nouveau record du monde.
C'est la bagarre de trop. Hier, dans les loges du festival, les frères Gallagher, les deux leaders d'Oasis, se disputent violemment. Ils annulent le concert et annoncent la fin du groupe. Il y a quelques mois, Oasis nous déclarait pourtant s'être assagi.
C'était la fin de l'été, c'était au festival Rock en Seine, ça, qu'Oasis s'est séparé, donc ça signait déjà la fin. Ça vous a évoqué des choses, ce petit
Alors ce
magnéto.
Petit, bah si, la victoire du Usain Bolt, oui, vu que je suis jamaïcaine d'origine, donc je me dis bon. Mais 2009, non, dans ce qu'on a entendu, j'avais complètement oublié pour Oasis, mais je crois que je suis passée complètement à côté de la Oasis Mania.
Vraiment, 20 ans, l'été, à l'époque, je crois que vous étiez très short et Santiago, ce qui est déjà
complètement,
une belle combinaison
complètement,
en termes de
et
look.
Et créole aussi, créole
short,
à Santiago, fond.
Short, Santiago, créole, on vous visualise. Vous vous rappelez je crois que c'est l'été où vous partez, vos 20 ans.
Oui, alors
c'est l'été où vous déménagez
alors,
de Marseille.
2009, ouais, c'est ça. Je déménageais de Marseille, j'avais passé... Je passais les concours pour les écoles nationales et j'avais passé le TNS à Strasbourg. J'avais été recalée au troisième tour. J'étais super déprimée. Et donc, je me suis dit, OK, c'est le moment de partir. Et je me suis dit, je vais aller à Paris parce que je rêvais de Paris. Et c'était voilà ce moment de transition. Mon dernier été à Marseille en tant que Marseillaise qui vit dans cette ville. Et j'étais tellement contente de partir à l'aventure. J'aime bien le côté aventurier. Et c'était plein de promesses. Et après, je suis rentrée au Conservatoire National, donc c'était vraiment, tout s'est bien goupillé, quoi.
Des matins et des promesses. Avant de parler de votre film, qui parle avec beaucoup de justesse des violences conjugales, mais aussi et surtout de l'après, de la force de votre personnage, Laura, on reste en 2009 avec ce tube sorti à l'époque, et j'avoue, je me suis fait un immense plaisir en le choisissant parmi les cartons de cette année-là, c'est Hills, avec That Look You Give That Guy.
Ah.
I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. Never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. Thank you.
I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I lack the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me.
Rappelle-les tes amis d'électrique.
Ça, dégage.
Hé, hey, on peut calmer là.
C'est elle qui est pas calme.
Mais lâche-nous, maman, lâche-nous.
Je vas me dire où elle est. Dis-moi où elle est.
Tu descends.
Non, toi, tu fermes ta gueule. D'accord, ou je t'en colle une.
Arrête, tu lui parles pas comme
ça. Mais elle t'a dit de descendre.
Je t'ai dit de la fermer.
Joachim, tu lui parles pas comme ça.
C'est un extrait du film dont on parle aujourd'hui. Zita Enro, pas n'importe quel extrait.
Non.
Votre personnage, Laura, est ici dans un tram. Je donne une petite vision d'ensemble, en train d'essayer de protéger sa fille et elle-même, sa fille Lou, acculée par son ex, jouée par un grand Bastien Bouillon, d'ailleurs. Homme violent qu'elle a réussi à quitter et qui revient dans sa vie parce qu'il est en train de reproduire le même schéma avec une autre, Chirine, qui est venue se réfugier chez Laura. Ça, c'est pour le pitch du film, parce que Laura serait la seule à même de comprendre ce qui est en train de lui arriver. C'est un film très juste, c'est un film très subtil, avec des personnages pas du tout caricaturaux. Finalement, un film assez lumineux. Qu'est-ce qui vous a particulièrement donné envie dans cette histoire qui raconte aussi l'après des violences ?
Bah justement, c'est le portrait en fait de cette femme Laura et de sa reconstruction et la façon dont elle réapprivoise son corps, son désir. J'ai envie de dire aussi un peu l'espace public, qu'elle se redécouvre. Et j'ai trouvé à la première lecture, alors que ça parle de violence conjugale, etc., et que c'est le sujet, entre autres, mais, ou même central, mais j'ai trouvé qu'il y avait une approche où on était vraiment proche de cette femme. Et donc cette femme qui n'est pas perçue... entre guillemets, simplement comme une victime, qui en tout cas qui n'est pas essentialisée, mais qui est une femme, je vais dire, moderne, une femme qui, moi, me touche beaucoup, avec elle est très faillible et à la fois très forte. Et j'ai trouvé que la façon dont Nathalie Najem, la réalisatrice, faisait le portrait de cette femme, je me suis dit, ok, elle me touche parce qu'elle est vraiment actuelle. Et il se trouve qu'elle subit des violences, mais elle est aussi autre chose que ces violences. Et donc, je trouvais que déjà, à l'écriture, il y avait ce côté rassurant qui n'était pas « on parle d'un sujet, on ne parle que de ça ». Parce qu'il y a plein d'autres scènes dans le film. Vous avez parlé de lumineux, et c'est vrai qu'il est lumineux parce qu'il y a des rires aussi dans le film.
Il y a un autre homme,
il y a de la maladresse, il y a aussi ce lien avec son enfant, entre Laura et sa petite fille Lou. Et donc oui, il y a de la dureté parce que les choses sont dures, mais elle est aussi racontée pleinement, globalement.
Avec de la lumière aussi, ouais. La lumière de la ville de Nice. C'est assez rare, moi, je trouve, de voir filmer cette emprise qui demeure, en fait, qui devient, pardon du jeu de mots, mais une empreinte sur la vie de Laura. Et Laura, elle est sculptrice. Et sans en dire trop, il y a un moment où elle sculpte le visage de son ex. Et j'ai trouvé ça hyper malin comme idée.
Mais c'est vrai que c'était ces scènes de sculpture, c'était moi j'ai trouvé que c'était des scènes passionnantes à tourner. Déjà j'étais heureuse de jouer une femme artiste et qui s'exprime de cette façon-là parce que moi j'ai jamais fait de sculpture, à peut-être de la terre glaise quand j'étais petite, mais je trouve que voilà, il y avait quelque chose dans la dimension très charnelle de la sculpture, et rendre objet quelque chose d'invisible et en fait de le rendre visible avec cette sculpture, ce visage, et de reprendre possession aussi, et d'avoir un peu ce sentiment aussi de en tout cas de se réapproprier son histoire, se réapproprier cet homme, pouvoir aussi agir sur lui et même parfois être violente si elle en ressent le besoin. Mais parce que j'ai été coachée pour la sculpture, vu que j'en fais pas. J'ai travaillé avec un sculpteur et justement, c'était hyper intéressant la façon dont il m'a aidée à regarder justement ce qu'on était en train de construire et la distance aussi que Laura prend vis-à-vis de cet objet.
C'est comme s'il était en elle, qu'elle le sortait.
Il y a quelque chose, elle a besoin de l'extraire pour pouvoir s'extraire en fait de cette violence qui continue malgré les années, malgré les plaintes.
Malgré le fait qu'elle ait réussi justement à partir. C'est un film qui parle aussi de sororité, mais qui y va pas avec des gros sabots parce qu'elle n'est pas... Et pas évidente cette sororité. Non. Avoir quelqu'un qui arrive chez soi et qui vous dit est-ce que tu peux m'aider et qui en même temps refait rentrer le loup dans la bergerie.
Complètement.
On sent qu'elle hésite énormément, qu'elle a pas envie, Laura.
Mais justement, ce que je trouve beau, c'est qu'on la prend à un moment de sa vie. Peut-être que 2 ans plus tôt, elle aurait pas pu aider cette femme qui arrive. Parce que les questions, quoi, la violence est tellement difficile que il y a des moments où on est plus ou moins prête, on se sent plus ou moins forte aussi pour pouvoir tendre la main à d'autres. Et je trouve que voilà, elle a beaucoup de courage cette femme parce qu'elle tend la main à Chérine et ça arrive à un moment où elle peut, mais elles deviennent pas copines pour autant en fait. Il y a cette peut-être aussi cette culpabilité-là, parce qu'elle se dit peut-être que si elle avait été plus insistante, si elle était à la police plusieurs fois exactement, et ça aurait peut-être évité à cette femme de subir ces violences-là. Mais j'ai trouvé que c'était très beau. Nathalie Najem, la réalisatrice, parle de levée de bouclier. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre dans le film. C'est cette levée de bouclier, ce passage de relais entre ces femmes. Et une façon de dire ensemble que les choses sont intolérables.
Et c'est intéressant, ce choix même du casting de femmes qui embrassent l'écran, enfin où il y a quelque chose où leur corps est là en entier.
Oui, il y a quelque chose. On se faisait la réflexion avec Alexia Chardard qui joue le rôle de Chérine et Nathalie. On se disait mais on est des au moment du tournage, en tout cas, il y a quelque chose. On est des voilà, avec Alexia, on est assez solide physiquement. On remplit.
Vous occupez l'espace.
Exactement. Voilà. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est d'avoir que Nathalie nous ait proposé ces rôles-là, parce que ça enlève un peu le préjugé qu'on peut avoir sur l'idée qu'on se ferait d'une victime, que c'est quelqu'un de très fragile, etc. Physiquement, non. Par exemple, Rihanna était victime de violences conjugales, alors que pour moi, c'est l'incarnation de
la force.
Ouais, de la force, et puis même physiquement, quoi. Elle a quelque chose de puissant, et pourtant, elle a quand même été touchée par ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de dire, voilà, il n'y a pas un type de victime, et malheureusement, ça peut tomber sur chacune d'entre nous, quoi.
Vous vous êtes confrontée à quoi pour ce rôle? À quelle interrogation interne? À quel truc de la vraie vie?
Je me suis posé la question de l'enfant, vraiment, de l'enfant témoin, de l'enfant qui subit ces violences-là. Là, dans le film, donc, il est question de violences verbales, psychologiques, d'état de stress aussi.
De tension.
Ouais, complètement. Oui. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de la protection des enfants. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Actrice est vraiment... formidable. Ouais. Maya Hirschbein.
Oui, elle, en fait, elle dégage quelque chose d'assez fort. Donc c'était, mais même dans ce qu'elle est aussi, dans l'enfant qu'elle est, c'est une enfant qui est très entourée, qui on sent qu'il n'y a pas ces failles là en fait de cette violence là. Et donc c'était assez rassurant aussi pour moi de pouvoir
aller au bout.
Oui, parce que c'est quand même difficile, je trouve, cette position, même si on sait que c'est de la fiction, mais d'être dans une violence
avec un enfant, tout simplement.
Voilà, c'est ça.
Petit.
Et donc ça m'a emmenée dans ces zones-là.
Sachant que vous êtes mère. On va parler un peu plus de vous dans quelques instants. C'est en route, vos aspirations, de comment vous construisez votre carrière et vos engagements. Mais d'abord, un petit panorama de la culture. Et puis, on écoute la géniale Little Sims. Vous connaissez? Elle est super. C'est Free sur France Inter.
Thank you. immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah.
Little Sims, Free sur France Inter.
Le mag de l'été. Marie Misset sur France Inter.
Tous les jours à 18h34 et 7 secondes exactement, le mag de l'été en mode vigiculturel.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Aujourd'hui dans le panorama, on rattrape une série bientôt culte. On va évidemment au cinéma, c'est mercredi. Et puis on regarde les prix des festivals s'envoler.
Autour de 2010, donc au moment de la crise du 10, c'est là où ça a commencé. On a eu un impact, nous, directement sur l'augmentation des cachets. On avait un budget artistique qui était autour d'1,7 million d'euros. Aujourd'hui, on est autour de 5 millions et demi pour le même nombre d'artistes.
Ah oui.
Oui, Nicolas. Les artistes vendent de moins en moins de disques, alors ils misent tout sur les concerts. C'est ce qu'expliquait à l'instant Jérôme Tréhorel des Vieilles Charrues. Et ça, ce n'est qu'une seule des raisons qui font que les prix pour aller en festival ont explosé, plus 60% en 10 ans. Ajoutez à ça le bouleversement climatique, qui a un impact direct sur le prix des assurances intempéries. Et 3, le fait que les festivals perdent leurs subventions. Comme Rock en Seine, qui vient de perdre 40 000 euros de la ville de Saint-Cloud, probablement suite à un tweet de Valérie Pécresse qui demandait à ce qu'on déprogramme le trio de rap irlandais NICAP des festivals français, notamment à cause de leur prise de position pro-Palestine qui leur vaut des poursuites judiciaires au Royaume-Uni. 40 000 euros, ça fera pas flancher le festival, mais c'est une goutte de plus dans un vase à capacité limitée. Mercredi, c'est cinéma en salle aujourd'hui. Kev Adams et Michael Youn qui volent leur rôle à des comédiens vraiment chauves dans Chauve qui peut, mais aussi Kouté Oua, un beau film moitié docu, moitié fiction sur un deuil en Guyane avec pour une fois un regard de l'intérieur, ou alors Didi, où un ado sino-américain apprend à grandir, mignon mais pas fou, disent les critiques. Et sous mes projecteurs, les deux sorties du jour.
I got a call into the office about a disturbance.
Last night,
the family was murdered.
Shooters on tribal ground. This is a Pueblo case.
This is our crime scene. Get out of here!
Eddington de Ari Aster, le cinéaste américain qui aime nous faire peur et qui s'effraie lui-même dans ce néo-western au Texas. La Croix qualifie le film d'un peu outrancier. Télérama parle d'ironie féroce. Les cahiers du cinéma apprécient beaucoup. Le Figaro déteste. Qui raconte donc ce film La fracture américaine en un peu plus rigolo, mais surtout en super parano, avec l'homme providentiel du cinéma américain Pedro Pascal qui brille à côté de Joaquin Phoenix.
c'est Marseille ici.
Mais comment tu te présentes ça?
Salut. En fait, faut être poli, je crois.
Et si c'était moi qui passais là, vous diriez quoi?
Moi, j'aurais dit ça se voit, Yasmine, t'es une fille bien. Tu crois pourquoi je vais te marier?
Mais tu me maries, toi, maintenant?
Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein, des filles désirent.
Si vous voulez vous faire un shot de Marseille, mais qu'il n'y a plus de place dans un train d'ici octobre à moins de 230 €, courez voir Les Filles Désirent de Prince Yakar, un premier film subtil, un teen movie qui sent fort le sel de la Méditerranée, un pitch que je vous fais en 8 secondes. Omar et sa bande ont l'habitude de classer les filles en bonnes à marier ou bonnes à, vous m'avez compris, jusqu'au retour de Carmen, amie d'enfance, mais aussi ex-prostituée. Et puis, si vous l'avez loupé, suivez-moi, vous ne le regretterez pas.
Bonjour, je m'appelle Marc S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation.
On vous a parlé de cette série, mais comme elle demande de prendre le temps de s'installer, vous étiez peut-être trop pressé. L'été est arrivé, c'est peut-être le moment de vous plonger dans Sévrance, une fable moderne sur le travail qui vient d'être nommée dans 27 catégories aux Emmy Awards. Et le truc gratuit alors ? Alors franchement, je dis pas ça parce que j'essaye de devenir amie avec Daniel Fievet, mais écoutez, je vous en prie, In Extremis, sa nouvelle série de podcasts dispo sur l'appli Radio France, c'est sur des gens qui ont survécu, mais In Extremis, de quoi vraiment profiter de son canapé et du fait d'être vivant. Et avec moi ce soir à la table du Mac de l'été, c'est toujours Zita Enroux avec nous. On parle ensemble du film « Aux jours qui viennent » de Nathalie Nejem qui sort la semaine prochaine. C'est pour ça que je ne voulais pas conseiller cette semaine. Mais on pourrait aussi parler de Dominique Blanc.
Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ?
Sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire?
Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue. Et je vais...
Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime!
Oh, vous le connaissez encore par cœur.
Ah ouais, je le connais encore par cœur. Non mais c'est incroyable.
Vous l'avez beaucoup beaucoup écouté, Dominique Blanc, pour préparer le concours.
Ah, je l'ai beaucoup 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 écouté. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas beaucoup de DVD. J'avais quelques coffrets et j'avais le DVD du spectacle de Chéreau, de Phèdre. Et donc j'avais ma chambre de bonne et j'avais mes petites enceintes et j'écoutais ça à fond dans ma chambre de bonne parce que c'était la scène donc que j'ai présentée au concours du Conservatoire National de Paris. Et c'est grâce à elle que j'ai eu le premier tour et ensuite le deuxième tour. Et...
C'est un autre genre de nuisance sonore quand même, de balancer fond du Phèdre pour les voisins.
mais c'est vrai, je l'ai joué dans un film dans À mon seul désir de Lucie Borloto. Je joue un personnage qui passe une actrice qui passe le concours du conservatoire et donc elle répète cet extrait. Et c'est vrai que je l'ai tellement fait en boucle et je connais encore une bonne partie du texte par cœur. Et là, d'entendre Dominique Blanc, je trouve ça bouleversant. Ce j'aime-là, comme ça, crier, quoi. Il y a une puissance folle.
Vous aimez beaucoup l'écouter, même en interview, Dominique Blanc, pour vous inspirer de ce genre d'actrice. Elle raconte dans un grand entretien qu'elle a raté plein de fois le conservatoire. Vous êtes donc rentrée au Conservatoire National, le Graal, hein, pour beaucoup de jeunes comédiens. Vous en avez un souvenir plus mitigé, moins Graal.
Non, c'est ce que je voulais. Je voulais absolument parce que je pense qu'il y a un peu l'esprit de compétition, etc. Mais c'est vrai qu'en étant au conservatoire, je trouve que c'est une école qui est vraiment super et c'est énormément de privilèges et c'est une chance d'y être. Mais je pense que quand on est jeune acteur, actrice, ou même dans les écoles d'art aussi, il y a pas mal ce phénomène, c'est qu'on arrive aussi avec plein de croyances, peut-être un ego un peu surdimensionné, et que d'un coup, l'expérience du groupe, l'expérience de ça peut être assez intimidant, en fait, le conservatoire.
Partir du fantasme et arriver dans le réel.
Ouais, c'est ça, en fait, comme c'est une institution, donc il y a quelque chose, on se dit, bon, il faut être à la hauteur, et en même temps, on nous disait à l'époque qu'on avait vraiment beaucoup de chance d'être là et qu'on était censé être les meilleurs. Donc moi, je trouve ça paralysant quand on nous dit, bon, là, il faut être super, forcément, on a tout sauf envie d'être super, quoi. Et donc ouais, un peu mitigé. Mais ensuite, je trouve qu'il a très bien évolué, le conservatoire. Ouais.
Est-ce que vous aviez aussi un manque de sensation d'appartenance ou un truc, quoi, un rapport au groupe, peut-être? J'essaie de deviner. Hein.
Oui. Non, il y avait. Je pense qu'il y avait beaucoup de fantasmes et que la réalité n'était pas à la hauteur de mes fantasmes. Mmh. Donc forcément, ça crée un.
Faut travailler le décalage.
Donc travailler ça, mais bon. J'ai traversé ça et ça m'a appris plein de choses. Même, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas, ça, je ne regrette pas.
Demande sur le sujet de l'appartenance, parce que vous avez créé en 2021 quelque chose qui n'existait pas avant, l'association des actrices,
ouais.
L'ADA, avec entre autres Ariane Labed, Daphné Patakia, Clotilde M, Anna Mouglalis ou Alma Jodorowsky. Mm-hmm. C'était avec l'envie de faire corps. C'est venu assez précisément de MeToo, soyons clairs. Et des problèmes de violence sexiste et sexuelle dans le cinéma, mais il y avait aussi l'idée de faire corps.
Ouais, non, alors moi, je dirais que oui, c'est venu avec MeToo, mais comme plein de choses sont venues avec MeToo, c'est pas le démarrage, voilà, c'était pas OK MeToo. En fait, on s'est retrouvés entre actrices autour de dîners très sympas. Et puis, on a un peu échangé sur nos expériences, et à un moment, on s'est dit, bon, bah, on pourrait faire quelque chose. On a vu qu'il y avait des problèmes, comme ça, des problèmes qui se répétaient. Et donc, on s'est dit, OK, faut peut-être agir, faut faire quelque chose, faut penser ce métier autrement.
On a ce pouvoir-là aussi.
Exactement, faut le pratiquer autrement. Et en effet, on a ce pouvoir. Et donc, on s'est lancé donc dans cette association. Moi, j'avais jamais créé d'association. Je savais pas vraiment ce que c'était. Donc, on avait cette envie-là de faire en sorte que le métier de coordinatrice d'intimité soit là sur les plateaux avec nous.
Les coordinatrices d'intimité, c'est les gens qui accompagnent les scènes d'intimité, les
Exactement.
Scènes de sécurité. Je me suis demandé s'il y en avait une sur le film, parce que les scènes dans Au jour qui viennent sont quand même des scènes d'amour assez tendres. Hein. On parle de violence conjugale, mais ces scènes-là sont très tendres. Est-ce que c'est utile même pour ces scènes-là?
Alors, c'est super utile. Vraiment, moi, je connais depuis peu de temps le travail des coordinatrices d'intimité. Et là, en effet, on a fait appel à une coordinatrice d'intimité tout de suite. En lisant le scénario, j'ai exprimé mon besoin à Nathalie, qui l'a entendu. Et donc, on a travaillé avec l'autre comédien, Aurélien Gabrielli, autour des scènes qu'on a ensemble. Et justement, ça a permis, je pense, une grande liberté, une grande joie dans le travail. Et justement, dans cette scène, à un moment, mon personnage a un fou rire qu'il a saisi. Et c'était un vrai fou rire, je m'y attendais pas du tout. Et je crois qu'il a pu arriver parce que...
Il n'était pas prévu.
Ouais, non, pas du tout. Mais c'était génial. Quoi, moi, j'adorais. J'avais l'impression de faire un truc interdit, d'avoir un fou rire comme ça. Je pouvais plus du tout m'arrêter. Et je pense que d'avoir ce cadre de travail avec la coordinatrice d'intimité et de bien signifier nos limites,
oui,
et d'avoir
ça,
ce
on
lien,
discute, en
exactement,
fait, vraiment,
en fait, on discute
des cadres,
de l'envie de la réalisatrice, de l'envie de la mise en scène, de nous, nos limites en tant qu'actrice, en tant qu'acteur. Et ensuite, comment faire pour que tout ça se mélange et qu'on arrive à raconter ce qu'on veut raconter au mieux
dans le respect.
Exactement.
Donc,
c'est super.
Dans le film Au jour qui viennent, il y a donc aussi cet enfant, Lou, à qui on n'explique pas tout, mais qui les voit, les violences, qui essaye de deviner, qui essaye de comprendre. Ça m'a donné envie de vous présenter l'autrice d'un essai passionnant sur le silence qui est sorti cette année. Ça s'appelle Nos silences. Elle s'appelle Laurence Joseph. Je pense vraiment que ça va vous intéresser. Elle nous rejoint dans quelques instants. Cette rencontre ne se fera pas en silence. Ce sera juste après ce titre de Hamza et Byron Messia, rentré en playlist sur France Inter. C'est Location.
Majeur en l'air pour les hate-up. Je fais la graille comme un alligator. Il faut ma zaza dès que je wake up. Un nouveau rose rose garé devant le gator. One your ways baby, twist your body. Je suis prêt à payer cher juste pour goûter Spunani. Je suis un pétard, je me sens comme un Afghani. Poker face bébé, pour toi je mets tapis. C'est parti, y'a pas de ralentir. Elle est sexy, elle a pas besoin de mentir. Avec elle, je veux pas bâtir un empire. Hey, hey, elle
veux rentrer avec moi, why not? Baby, je veux devenir my love. Why not? Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle one comme personne. Bad girl dans ma section, qui a brisé ses collections. C'est qu'il a comme Jason, elle one comme personne. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle one comme personne. Bad girl dans ma section, qui a brisé ses collections. C'est qu'il a comme Jason, elle one comme
Hello, top tier, a bad bitch, top class, wine for me baby, you pass fat, pussy at the tightest, that's all I get, wine for me baby, hey baby, your body phenomenal, the way you wind up and we are cannibal, how are the anyway, we the party ram, wine for me baby. Every man to a girl, no man to man. She want pop pill, go in a Zambilan. Dear people, I left in an ambulance. Why for me, baby? She want go shopping Paris. Lobsters and calamaris. Heartbreak, I'm mentally damaged. Sorry, bears, but me can't do marriage. You know, see how we are roll like passes. We are Rovers and Ferraris.
Why for me, baby? Stop us on the affection. On voit ta location. Somebody m'impressionne, elle one comme personne. Bad girl dans ma section, qui a brisé ses collections. C'est qu'il a comme Jason, elle one comme personne. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle one comme personne. Bad girl dans ma section, qui a brisé ses collections. C'est qu'il a comme Jason, elle one comme personne.
Hamza et Byron Messia à l'instant sur France Inter, c'était Location.
France Inter, le mag de l'été.
On vient d'être rejoint à la table du mag de l'été par Laurent Joseph. Alors pour vous remettre un petit peu le contexte, Zita Enro, vous jouez dans Aux jours qui viennent, un film de Nathalie Negem sur les violences conjugales. Et dans ce film, il y a une enfant. Il y a une enfant très joyeuse, très lumineuse d'ailleurs, qui apporte énormément au film, à la joie qu'il peut donner, malgré le sujet difficile. Et c'est une enfant à qui on n'explique pas grand-chose. Quoi. On voit dans son regard qu'elle comprend des choses, qu'elle essaie de naviguer là-dedans. En tout cas, ça m'a donné envie de parler de silence. Or, Laurence Joseph, vous avez écrit un essai sur les silences. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes aussi psychanalyste. Et donc, il y a quelques mois, paraissait Nos silences, apprendre à les écouter. Passionnant essai sur la question du silence, à une époque quand même où il est devenu presque suspect, le silence. En tout cas, il n'a pas bonne presse ces dernières années. Je crois que vous avez vu le film que Zita Enro est venu nous présenter, Aux jours qui viennent. Est-ce qu'il vous a plu? Je crois que oui, sinon je ne poserais pas la question. Je ne prendrais pas ce risque.
Il m'a énormément plus ce film, parce que vraiment il approche avec du tact et avec une grande douceur aussi cette question des violences conjugales, la question de la sororité aussi, du lien qui peut s'établir entre deux femmes et qui va pouvoir fabriquer de la protection, qui va pouvoir faire appel à la loi, sans non plus que la réalisatrice à un moment soit obscène quant à ces violences. Et il y a énormément de douceur entre les personnages, et aussi elles ont chacune des liens très différents à la vérité. Il y en a une qui sait déjà et qui a un lien avec la sculpture où elle doit explorer, je pense, déjà beaucoup de vérités. Il y a celle qui est en train de reconnaître les choses, qui est Shirine. Et puis, il y a cet enfant lumineux dont la vérité traverse la bouche, en fait. C'est extraordinaire.
Vous dites qu'elle est en train de comprendre la vérité. Ça me fait penser à un passage de votre livre où vous dites que parfois, les secrets, c'est pas juste des secrets pour les autres, c'est des secrets pour nous-mêmes.
Oui, exactement. C'est le paragraphe qui s'appelle « Nos silences » dans le livre. C'est-à-dire que c'est celui qui porte vraiment le titre du livre. Parce que ce sont nos silences à nous-mêmes. C'est-à-dire ce sont ces moments où on ne peut même pas s'avouer la vérité, où on veut même pas nommer une chose. Ça flotte en nous. Et ça peut être des choses très belles, très poétique, cette flottaison, comme des temps d'écriture ou d'inspiration. Et puis, il y a ces moments d'élaboration aussi, comme dans le personnage de Chirine, qui, grâce à ses dialogues avec Laura, petit à petit, va pouvoir élaborer, sortir de ses silences à elle-même pour nommer exactement ce qui est en train de lui
arriver.
Pour
dire les choses. Et alors, il y a quelqu'un à qui on ne dit pas grand-chose dans cette histoire, en tout cas, moi, je trouve, c'est Lou. Comment vous l'avez... Je crois que c'est un truc central du film qui vous a plu, oui. Zita Enro, cette question de qu'est-ce qui est en train de vivre cet enfant à qui on parle pas vraiment.
Mais oui, oui, oui. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'on peut s'identifier à différents personnages en tant que spectatrice ou spectateur. Et moi, en tant que lectrice, la première fois que j'ai vu le scénario, je me suis pas mal identifiée à ce personnage, en fait, à la fois dans cette place, dans cette position d'impuissance, et en même temps dans le film il y a toute une quête autour de l'argent qu'elle doit trouver pour un voyage scolaire, et que c'est une façon d'agir aussi, et j'aime beaucoup justement le rapport à l'argent qu'a cette petite fille dans en fait, elle reprend un peu le pouvoir à un endroit, et je trouve ça très très juste et même décalé, à des moments un peu drôle aussi, parce que c'est surprenant de voir une petite fille réclamer son argent avec beaucoup de force et de courage et de détermination. Et c'est vrai que c'est une enfant qui, voilà, comme je vous disais plus tôt, c'est que moi je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, comment on les protège. Et justement, Laura, qui subit des violences, et elle-même autrice de violences, en fait, parce que quand elle,
c'est verbal.
Cas, ça génère de la violence, et donc malgré elle est débordée aussi, et donc il y a des moments elle pète un câble, parce que c'est super dur sa situation, elle est maman solo et elle essaie de trouver des solutions, etc. Et puis elle est dans quelque chose dans le présent, mais
quand on ne parle pas et quand on agit parfois au lieu de parler, ou quand on transmet ces violences au lieu peut-être de les élaborer ensemble avec la petite fille.
Il y a beaucoup de questions dans la question là. Qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant quand on lui dit rien? On lui donne des choses à interpréter de manière sauvage, violente, brutale. Cette petite fille, c'est un peu nos yeux, en fait, dans le film. Et par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'argent, elle compte les billets. Mais c'est elle aussi qui rend le personnage masculin, Joachim, beaucoup plus ambigu et beaucoup plus complexe qu'on aurait pu penser. C'est-à-dire, elle lui permet aussi de sortir d'une caricature d'un homme purement violent. Je pense qu'on abandonne trop les enfants quand on leur explique pas, par exemple, ton père est paranoïaque, ton père se drogue. C'est-à-dire qu'on leur donne pas une grille de lecture, on leur fait trop confiance dans leur lien à la vérité. Même s'ils abritent beaucoup de vérité, ils ont besoin de nos mots aussi pour être entourés.
Ce que vous dites, oui, c'est qu'ils vont avoir des interprétations qui vont les guider ensuite, en plus, dans la vie. Derrière,
ils vont avoir des interprétations, des lectures trop rapides, parfois des lectures trop cruelles aussi, et ils vont être hantés par certains personnages. Mais on voit que très souvent, c'est pas pour rien que l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants » existe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une lecture parfois plus intelligente que nous, parce que leur clivage va pas du tout être les mêmes. Parfois, ils peuvent aborder les choses. D'ailleurs, la petite Lou dans le film, elle dit des choses beaucoup plus vraies, parfois que Chirine, finalement. C'est elle qui voit.
Mais se taire, c'est aussi souvent protéger, non ?
Bien sûr, c'est toute la difficulté, c'est toutes les zones grises autour de la question du silence. C'est-à-dire que le silence peut nous protéger, peut protéger les justes, mais peut aussi enfermer, enquister et prendre en otage certains sujets. C'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le sujet des silences, parce que ça, il est passionnant à explorer.
Dites un rôle en tant qu'actrice, que comédien, quel est votre usage du silence ? Comment on l'appréhende ?
Mais le silence, je me souviens justement quand j'étais au conservatoire, donc on avait des cours de chant lyrique, et on nous disait souvent de penser au silence avant que la voix arrive, et ça m'a vachement frappée à ce moment-là, parce qu'en effet il y a plein de silences différents sur un plateau de cinéma, au théâtre, dans une réplique, et je pense que peut-être le travail de nous actrices consiste aussi à trouver les silences dans la parole de nos personnages, et parce que c'est très difficile aussi d'habiter un silence au cinéma, parce que c'est rassurant d'avoir des mots auxquels on peut se rattacher. On est dans l'action, on parle, etc.
Ça se retrouve dans les cabinets de psy. C'est ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que souvent, quand on se tait, c'est qu'il va se passer quelque chose derrière. C'est-à-dire que le silence précède une parole, et peut-être une parole importante.
Il y a des phrases souterraines qui se préparent, qui se composent au fur et à mesure à l'intérieur du silence, et qui peuvent mettre une, deux, trois séances à émerger. Mais dans le film, les silences y sont habités par beaucoup de regards, beaucoup de gestes extrêmement tendres entre les actrices, comme un passage de relais.
en exergue de votre livre, et malheureusement on va devoir terminer cette conversation sur les silences là-dessus, mais je voulais quand même le lire. Il y a cette phrase de Christian Bobin qui dit « L'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences ». C'est ça qu'on espère au fond, c'est de pas,
on l'espère complètement,
pas avoir à parler. Zita Enroux, Laurent Joseph, cette émission touche à sa fin. J'aimerais votre kit de survie pour l'été, une série de questions, recommandations, des choses à lire, à regarder, à faire quand on a la flemme de trouver des idées ou beaucoup trop chaud. Zita Enroux, un film que vous avez revu et revu et revu plusieurs fois.
Je vais rester dans le thème, mais c'est juste une série là que j'ai découvert sur Arte qui s'appelle Kerrer, justement sur une femme victime de violences conjugales et un peu thriller, et j'ai trouvé ça très très bien.
Laurent Joseph, un silence à respecter absolument l'été.
Ah, le silence de la lecture ne peut être dérangé.
Zita Enroux, un ou une artiste qui vous a donné envie d'étudier l'histoire de l'art avant de bifurquer définitivement vers le théâtre.
Gustave Moreau, allez,
c'est Gustave Moreau. Laurent Joseph, une série plaisir coupable, et on terminera là-dessus. Plaisir pas coupable, mais série plaisir.
Si, je suis en train de chercher la suite de Sex in the City.
Suite de Sex and the City. Même question pour vous, Zita Enroux.
Bah, c'est vrai, Sex and the City, ou je dirais Girls aussi de Lena Dunham dans le même
genre. Suite, enfin pas la suite, oui. La nouvelle série de Lena Dunham vient de sortir, ça s'appelle Too Much et c'est disponible sur Netflix. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et sur l'appli Radio France, évidemment. Zita Enroux, merci. Aux jours qui viennent, c'est réalisé par Nathalie Najem. Ça sort le 23 juillet. Et puis, vous prêtez aussi votre voix à la tante d'Elio. C'est le héros du dernier Pixar. On ne l'avait pas dit, ça.
Et c'est toujours en salle.
Merci à vous, Laurent Joseph. Nos silences, c'est publié aux éditions Autrement. Je peux rappeler aussi votre précédent livre qui s'appelle La chute de l'intime aux éditions Hermann. Je conseille vraiment. Joyeux et joli mois de juillet à toutes les deux.
Merci.
C'était le MAC de l'été avec Marion Philippe, Tara Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Lucie Lemarchand à la réalisation et à la technique, Achille Aknin.